Je présente maintenant le conférencier de ce soir. J'ai le plaisir de vous présenter Yann Moulier-Boutan, qui est né en 1949 et qui est économiste. Il est professeur d'économie à l'Université de Bretagne. Son parcours est un parcours de spécialiste d'économie. Il est agrégé de sciences sociales. Il a fait une thèse en sciences économiques. De 1981 à 1991, il a été chargé de cours à l'École normale supérieure. Et depuis 1999, il est professeur des universités de sciences économiques à l'Université de Bretagne. Il est directeur du laboratoire d'économie et de gestion des entreprises et des territoires en Europe de l'Université de Bretagne Sud. Ses spécialités sont l'économie politique et ses travaux portent sur les conséquences de la mondialisation et de l'économie libérale. Il a travaillé sur l'impact de la mondialisation sur les entreprises, sur les transformations du travail, sur la propriété intellectuelle, sur le capitalisme cognitif et sur l'économie Internet. Il a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales et il est directeur de la revue Multitude. Il est l'auteur de « Économie politique des migrations clandestines de main-d'œuvre, comparaison internationale et exemple français » en collaboration, Publisud 1986. Et puis, il est le biographe de Louis Althusser, publié chez Grasset en 1992, réédition livre de poche en 2002, et dont je lui rappelle que nous attendons la suite et fin. Merci.
Merci. Merci évidemment à l'Université de tous les savoirs de m'avoir invité. Je crois que l'université est autant maintenant dans ses lieux qu'elle ne l'est dans ses instances purement académiques. Je crois que nous connaissons une crise de ce qu'est l'université, l'universitas, l'universel. Et il est extrêmement important que des approches transdisciplinaires puissent voir le jour. Je crois que votre présence et l'assiduité des gens du public à ces séances montrent à quel point il existe un désir de savoir qui est certainement une des choses les plus intéressantes de la société. Les idées que je vais vous présenter ici sont bien sûr, j'en assume la paternité pleinement, mais il est important de signaler qu'elles sont le fruit d'un travail de plusieurs années, à la fois avec les étudiants de Sciences Po, du DSS de Sciences Po, politique d'emploi en développement social et en entreprise, que je mène depuis une vingtaine d'années et que j'avais eu le plaisir de commencer avec Renaud Saint-Saulieu, qui nous a quittés l'an dernier. Je travaille beaucoup à un laboratoire de Paris 1 qui s'appelle Isis Matisse et dans le cadre duquel nous élaborons un peu cette idée d'un capitalisme cognitif sur lequel je vais revenir. Alors, si vous le voulez bien, une approche globale au fond de la mondialisation. La mondialisation se dit globalization en anglais. C'est un phénomène complexe sur lequel il existe une pléthore d'informations, de recherches savantes. Cette surinformation génère un problème classique dans les sociétés de l'information, qui est aussi le mien ce soir. Comment retenir l'attention? Comment faire le tri dans cette surabondance? Soit l'on se concentre sur un point très limité, et l'on cherche à creuser en avançant par exemple des données empiriques, soit l'on opte pour une attaque globale de la question de la globalisation économique. La première méthode perd en caractère audible ce qu'elle gagne en compréhension. C'est le risque du discours des techniciens et des experts. La seconde risque souvent de perdre en profondeur et rigueur ce qu'elle gagne en séduction immédiate. L'attention qu'elle suscite est éphémère. Elle ressemble presque à celle que nous apportons à la lecture d'un article dans le journal. Les limites de temps assez strictes imposées à notre conférence m'imposent finalement de risquer une approche globale. Le prix dont je suis conscient, ce serait évidemment une stylisation outrancière, un syncrétisme qui agrège les apports, bien plus qu'il ne dissèque les pensées et les expose en prenant tout son temps. Mais au fond, pourquoi sommes-nous ensemble? Certes, pour essayer de comprendre le monde, un monde pensé comme ce qui arrive, ce qui nous tombe dessus en bien comme en mal. Rien de plus civique donc que ce souci de savoir. Et ce retour continuel sur la mondialisation nous est imposé, certes, Mais nous y revenons sans cesse, et si nous y revenons, c'est probablement qu'il reste encore matière à découvert. Aussi vous proposerai-je de réfléchir sur un objet, les entreprises, d'un point de vue, celui de la main-d'œuvre, ou plus généralement, et nous verrons pourquoi, celui de la population, dans un processus que j'appelle la grande transformation, la nouvelle grande transformation, en référence au titre que Polanyi donna dans son livre, paru en 1944, au système du capitalisme libéral de 1814 à 1914. Cette nouvelle grande transformation, je la caractérise comme un passage à un troisième capitalisme, au capitalisme cognitif. Autant de termes qu'il faudra remplir de contenu en peu de temps. Pourquoi partir maintenant des entreprises et de la mondialisation? N'en sommes-nous pas abreuvés? Bourse, finance, gestion, marché, loi des reins de l'économie, ces mots de la liturgie de l'homme postmoderne et de l'esprit de sérieux du Zeitgeist managérial, ne finissent-ils pas par lasser, voire par exaspérer? Ne sommes-nous pas ainsi sur le terrain par excellence, où domine l'orthodoxie, le monde des puissants et des riches, bref, à Davos plutôt qu'à Porto Alegre? Nombreux sont ceux qui renoncent instinctivement à une confrontation sur ces terrains, comme si les jeux étaient faits d'avance, comme si la messe était dite. Eh bien non, je ne le pense pas. Je veux essayer de vous montrer qu'il se pourrait bien qu'il en aille de façon contraire, qu'au cœur même des entreprises, malgré toute la rigidité de leur logique organisationnelle, malgré la puissance, semble-t-il, de plus en plus souveraine des marchés financiers, au cœur donc de ces entreprises, il existe des marges de manœuvre que le corps social y livre une multiplicité de batailles et de débats, et qu'enfin, l'entreprise est multiple, qu'elle connaît une mutation à ce point profonde que son identité, ses limites, son territoire sont brouillés. Autrement dit, je souhaite vous donner l'envie d'aller regarder de plus près toute une littérature, entre guillemets, gestionnaire, souvent dédaignée par les économistes purs et durs, pour y lire ce nouvel esprit du capitalisme, comme F. Chiapello et Luc Boltanski l'ont si excellemment fait dans leur livre paru en 1999. S'en tenir à cela serait toutefois insuffisant. Appréhender l'entreprise dans la mondialisation du seul point de vue des transformations des techniques, des organisations, des produits, des systèmes d'information, depuis les directions juridiques, commerciales et financières, en réduisant les hommes et les organisations collectives qui se forment en leur sein à un appendice plus ou moins subalterne, dans l'utopie d'une usine sans main-d'œuvre, tout simplement parce que cette dernière aura été délocalisée quelque part en Chine, ou bien celle plus courante d'un discours attentif seulement au personnel des cadres, eh bien faire cela, c'est s'amputer non seulement d'une dimension éthique qui est intenable à long terme, les phénomènes de corruption, de dégradation des formes de loyauté et de fierté ont bien quelque chose à voir avec le cynisme des brokers. Mais c'est aussi se priver d'une clé d'entrée décisive dans la compréhension de la nature de la mondialisation et par conséquent sauter toute possibilité d'agir sans subir ou rationaliser de façon secondaire l'ananké impénétrable des marchés, leur nécessité. Comment voir la mondialisation et les entreprises du point de vue des hommes et des femmes, de l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui sont si dédaigneusement considérés comme subalternes ou comme des variables d'ajustement sacrifiées aux appétits des actionnaires. Troisième souci enfin dans ce parcours que je vous propose, accorder au réel qu'il possède une cohérence forte et en même temps une discontinuité, une nouveauté qui disqualifie largement nos routines théoriques. Ces routines sont utiles quand la tendance se prolonge, quand elle suit la pente qui existe déjà. Mais elles deviennent tout à fait inutiles lorsque l'on a affaire à des ruptures. Il faut donc chercher à développer des hypothèses fortes et risquées à la hauteur du défi intellectuel que représente la question de la mondialisation. Alors je vais procéder d'abord par un constat, et ensuite je vais essayer de revenir dans une deuxième partie sur un cadre plus général, à savoir le capitalisme cognitif. Commençons donc par dresser un constat global, une sorte d'état des lieux. On assiste depuis une trentaine d'années à un brouillage des limites de la firme, de son identité, comme de celle du chef d'entreprise, à une hétérogénéisation croissante des modes de gestion de la main-d'œuvre qui s'adaptent largement aux transformations des flux et à la composition, à leur composition. Enfin, la société salariale, issue de la régulation fordienne du salaire des relations professionnelles, de la régulation keynésienne des politiques économiques et de la régulation beveridgienne de l'État et de la question sociale, se trouve complètement érodée dans ses fonctionnements, sans que par ailleurs se dessine une alternative claire à la salarisation de 85% de la population mondiale. Premier point du constat, bariolage, ethnicisation des entreprises, de la segmentation du marché du travail à l'ethnic business et à l'interculturel. La mondialisation actuelle a été largement préparée par la transnationalisation des firmes. On a moins prêté attention, en revanche, à l'impact des migrations internationales sur les caractéristiques de la mondialisation. Or, la segmentation du marché du travail, largement favorisée par des régimes discriminatoires d'accès légalement stratifiés sur le marché du travail, par le système des cartes de travail et de séjour, par le statut de l'étranger, phénomène largement initié en Europe occidentale dès le début du XXe siècle, et en France en particulier, à ce que j'appellerais « genderifier », c'est-à-dire renvoyé à la question du genre, ethnicisé, renvoyé à la question de l'ethnie, colorié, renvoyé à la question raciale, et castifié, ce qu'on appelait autrefois « la classe ouvrière ». Une division du travail rigide à la baisse, complément indispensable du compromis keynésien, a garanti aux ouvriers nationaux, non pas simplement des salaires, mais une mobilité ascendante pour leurs enfants, tout simplement parce qu'ils étaient assurés que les travaux les plus durs et les moins souhaitables, les moins désirables socialement, seraient effectués par des migrants arrivant sans cesse. Aujourd'hui, à la surface du globe, les entreprises industrielles n'employant qu'une main-d'œuvre homogène en termes de sexe, de couleur, de nationalité, de religion, constituent l'exception. Le monde du travail s'est transnationalisé également à travers le brain drain, dans les communautés scientifiques et les élites, puis dans l'usine fordienne, avant même que ne surgisse, du fait des délocalisations et des fusions, la question du management interculturel, du management, justement. Ces trois composantes de la mondialisation de la main-d'œuvre se trouvent aujourd'hui à des degrés divers dans les entreprises. Les combinaisons qui se mettent en place, par exemple la formation dans le Nord du personnel qualifié en provenance du Sud, pour les renvoyer dans les usines délocalisées dans leur pays d'origine et homogénéiser ainsi la gestion des ressources humaines, sont extrêmement diversifiées, mais elles confrontent toutes les entreprises à un cas de figure auquel elles n'étaient plus habituées depuis l'État national. L'existence de référents culturels plus assez homogènes, alors que Gellner avait montré dans son étude du nationalisme que la constitution de l'État national avait été un référent indispensable au dynamisme du capitalisme industriel. La question du foulard à l'école sur les lieux de travail montre que l'interculturel strie l'espace productif comme l'espace public. Le retour de flamme du nationalisme sous la forme du souverainisme et plus récemment les thématiques de guerre de civilisation à la Samuel Huntington, jouée à la française sous la querelle de la, entre guillemets, laïcité, avant de devenir des questions de société, avaient été largement expérimentées par la population étrangère ou d'origine étrangère et par les diverses minorités en but au racisme ou à la xénophobie. Deuxième point, l'entreprise de sa réhabilitation à Enron, réactualité de Voice, Exit and Loyalty de Hirschman. En 70, au plus fort de la contestation des luttes sociales, qui allait entraîner une remise en cause radicale du fordisme, les entreprises paraissaient à Albert O. Hirschman, qui avait publié « Exit, Voice and Loyalty » en 1970, elles paraissaient en déclin, non seulement les entreprises, mais également les organisations, dont les États. Profitabilité faible, contestation violente, délégitimation du commandement d'entreprise. En 1981, la France de l'alternance socialiste, après 21 ans d'exclusion du pouvoir, procédait à une vague de nationalisation sans précédent, même par rapport à celle de 1944-1947. Pourtant, dès 1983, la rigueur, le choix du francfort, puis du serpent, puis de la monnaie unique européenne, revenait à l'orthodoxie bariste, qui ne fut toutefois jamais la contre-révolution thatchérienne ou riganienne. En presque un tiers de siècle, les choses ont changé du tout au tout. Sous les deux septennats de François Mitterrand, les socialistes, devenus parti de gouvernement, ont réconcilié la France, ou une partie significative d'entre elles, avec l'entreprise privée et le marché. Plus globalement, la chute du mur de Berlin et l'écroulement de l'URSS et du communisme a achevé de vider de substance le socialisme étatique pour faire converger sa doctrine vers l'économie sociale de marché social-démocrate allemande, puis faire la distinction entre une économie de marché et une société qui, elle, ne serait pas de marché. Hormis quelques voix isolées à gauche, communistes et révolutionnaires, qui étaient pour une rupture avec l'économie de marché, et à droite, Alain Madelin et les secteurs les plus libéraux du MEDEF, qui voulaient, eux, une rupture avec l'étatisation de l'économie, les doctrines de la limitation des forces anarchiques de l'économie se sont retrouvées dominantes dans la gauche comme dans la droite de gouvernement. Les dénationalisations de la droite se sont accompagnées de la création d'un noyau dur et un colbertisme souverainiste bien tempéré, ainsi qu'un mercantilisme, s'est installé au centre idéologique, indubitablement, de notre pays. Mais il n'en reste pas moins que l'entreprise privée s'est trouvée réhabilitée et que la part des profits dans le revenu national se déplaçait durablement au détriment de celle des salaires. Le tout dans un contexte de désintermédiation bancaire, de création d'une économie reposant sur les marchés financiers, désabrités vis-à-vis de la concurrence internationale. L'essor à partir de 1990 de la net economy, l'éclosion des start-up dans des domaines de l'informatique, des biotechnologies, des nanotechnologies, a semblé consacrer le triomphe micro de l'économie de marché après la victoire du capitalisme mondial à intégrer par chaos vis-à-vis du socialisme. On a assisté à une troisième vague de libéralisation des marchés, code des investissements, libéralisation des services et des biens immatériels, création de l'OMC. Il s'en est suivi, toutes ces années, une restructuration et une modification profonde des paysages industriels, tant de la Lotharingie européenne que de l'Est américain, au profit de l'Irlande, de l'Europe du Sud, aujourd'hui de l'Europe de l'Est, et de la Sunbelt américaine, en attendant la délocalisation vers le sud-est asiatique. Les pays européens ayant le plus fortement mené des réformes néolibérales recueillaient des performances de croissance et d'emploi, de désinflation supérieures aux pays réputés, régulés fortement par l'État. « There is no alternative », TINA semblait être le mot d'ordre des années 90, mis à part le couac français de 95. Pourtant, avec la crise asiatique de 97, puis la contestation du sommet du G7 en 1999 à Seattle, l'échec de l'AMI, quelque chose a changé radicalement au niveau global. La mondialisation n'a plus été vue comme une seule voie obligée. Un mouvement anti-globalisation s'est révélé à une échelle jamais vue. À partir du deuxième contre-sommet de Porto Alegre, c'est à l'émergence d'une autre mondialisation que l'on a assisté. Mais ce déplacement s'est étendu au niveau micro avec la crevaison de la bulle spéculative boursière de la nouvelle économie qui a touché les valeurs technologiques et surtout dans leur corrélat manufacturier, puis la vieille économie replongée à son tour dans la récession. Les espoirs de retour au plein emploi se sont évanouis. Mais plus spectaculaire, c'est à une véritable crise de l'entreprise elle-même que nous avons assisté avec la gigantesque faillite d'Enron. Plusieurs aspects se mêlaient dans ce scandale. Le plus anecdotique était l'étalement de cynisme, de malhonnêteté et de corruption de certains dirigeants à l'égard de leurs salariés et de leurs actionnaires. Plus impressionnante était la faillite de l'optique de protection sociale, retraite en particulier, via la capitalisation de l'épargne salariale dans et par l'entreprise. Comme la solution de financement de la protection sociale à partir de la capitalisation boursière gérée par les fonds de pension distincts des entreprises se trouvait au même moment sérieusement menacée par le ralentissement des cours des actions en bourse et que les systèmes de répartition avaient été fragilisés autant par les initiatives des régulatrices néolibérales que par le seul problème démographique, l'impact du scandale d'Enron a été pratiquement de détruire d'un seul coup la confiance bâtie patiemment en 20 ans. Dans les années 90 du siècle précédent, les sociologues avaient soulevé la difficulté de l'intégration dans l'entreprise de générations qui avaient connu la galère du chômage. Une vulnérabilité, c'est-à-dire une exposition au chômage des moins de 30 ans, le précariat systématique des formes particulières d'emploi. Pour les catégories les moins qualifiées, on parlait de problèmes d'adaptation au monde du travail. Pour les plus qualifiés promus au métier d'encadrement, on résumait la situation en disant que les nouveaux actifs ne souhaitaient plus faire leur carrière dans l'entreprise, qu'ils construisaient des compétences et leur carrière sans jamais se marier avec l'entreprise définitivement. Délivrées de la contrainte du marché interne et d'un impératif de conserver leur main-d'œuvre, les entreprises se sont réjouies de cette liberté, sans toutefois mesurer les implications de long terme de cette rupture du contrat de confiance, alors que la transformation de leur processus productif les conduisait par ailleurs à réclamer une implication de plus en plus intense de leurs employés, surtout lorsqu'il s'agissait de production immatérielle et de qualité de service, très mal appréhendable à travers les dispositifs de type tayloriste, voire à travers les logiques de flux tendus industriels à la japonaise. Mais ces problèmes restaient circonscrits dans les murs de l'entreprise, alors qu'avec la faillite d'Enron et le problème de la véracité des comptes de l'entreprise, les dégâts sont sociétaux. L'appareil complexe de création d'une économie financiarisée, et non plus seulement bancarisée, révélait ses ficelles, ses tours de passe-passe, non plus aux experts, mais au public, aux ménages invités par ailleurs à devenir des acteurs boursiers et des petits actionnaires. Si en France, le nombre de ménages actifs sur le marché est resté pratiquement, en tout cas pour ce qui concerne les actions, est resté pratiquement étal malgré un rajeunissement, un petit 10% des ménages, aux États-Unis, c'est plus de la moitié des ménages dont le niveau de consommation dépend du rendement des actifs boursiers, gage d'un endettement qui fait frémir plus d'un banquier européen. On peut mesurer ainsi le séisme d'Enron. Il est sociétal. C'est tout le circuit de l'individualisme et du capitalisme patrimonial, décrit par Michel Aglietta et André Orléans, qui se trouve touché. Non pas tant les fonds de pension ou les investisseurs institutionnels, non pas seulement les spéculateurs sur les hedge funds et les obligations pourries, à très haut rendement, contrepartie d'un risque très élevé, que les entreprises elles-mêmes, que les sociétés de notation, que les entreprises de consulting, que les banques d'affaires, bref, que la comptabilité privée dans son ensemble. Ainsi, les États, les marchés publics, ne sont plus les seuls touchés par la corruption. Et surtout, le remède du marché et de sa légendaire transparence ne sont plus un remède. La manie anglo-saxonne du tout marché avait souligné, en son temps, que des faillites gigantesques, comme celle du Crédit Lyonnais, auraient pu être évitées par des pratiques et des procédures de gouvernance plus transparentes, plus objectives, moins liées aux relations intuitives personnées qui se développent autour de certains clubs très fermés, comme ceux du dîner du siècle. Mais l'impératif d'afficher aux actionnaires un price-earning ratio, c'est-à-dire une rentabilité financière des capitaux investis, autour de 15%. Bref, une dictature des marchés boursiers régie par la formation d'une opinion publique, celle des intervenants en bourse, a conduit à des scandales aussi considérables. Il ne manque plus qu'ajouter la légendaire corruption chinoise et quelques scandales financiers de banques japonaises qui ont conduit l'État à des recapitalisations et à des nationalisations implicites d'une taille vertigineuse, pour mesurer à quel point le libéralisme pur et dur des années 1980-2000 est usé dans sa prétention à se présenter comme la potion universelle. Ainsi, la vieille question posée par Hirschman, à savoir que le recours au marché pour corriger les trajectoires déviantes des entreprises, la voie exit du marché, n'apporte pas des correctifs automatiques, ne retrouve-t-elle pas toute son actualité? Jamais nous n'avons assisté à une pareille cure de marché pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient les chaebols coréens, les entreprises publiques à la française, les PME propulsées sur le marché mondial. Sommes-nous arrivés pour autant à une culture et à des instruments communs d'appréhension? Ce n'est pas d'aujourd'hui que date l'homogénéité de la forme taylorienne. De Détroit à Saint-Pétersbourg, elle avait déjà frappé les bolcheviks. Cette illusion de l'homogénéité du technique a été supplantée aujourd'hui par d'autres langages de la corporate gouvernance. Les tableaux de bord, les ratios financiers, le reporting, le contrôle de gestion. La puissance des NTIC donne même l'impression d'alimenter en temps réel les quartiers généraux des sièges. Rarement la norme de la comptabilité anglo-saxonne n'a paru aussi triomphante. On a pu croire, entre 1975 et 2001, après l'épuisement de la planification à la française, de l'économie mixte, celle du modèle Japan No. 1 et celle du modèle Renan, que l'heure était définitivement passée à la firme américaine, fortement dualisée, retaylorisée et amaigrie grâce à l'ordinateur pour le personnel d'exécution et normalisée par le réengineering. Le retour des start-up de la net économie vers la firme représentative de la vieille économie a été interprété par beaucoup comme une revanche des valeurs réelles et hiérarchiques sur les spéculations de l'immatériel anarchique, voire anarchiste. Mais la fin de l'expansion américaine indéfinie, la crise d'entreprises comme Enron, qui avaient bâti leur prospérité non sur l'informatique et les nouvelles technologies, mais sur le courtage d'énergie et sur la déréglementation des marchés publics, entraîne une prise de distance de nombre de chefs d'entreprise par rapport au modèle du tout libéral. Comme le marché, l'entreprise mondialisée paraît fonctionner sur des procédures identiques, mais l'appropriation des techniques, des outils, la déclinaison de leurs enjeux stratégiques montre que la formation des valeurs, la diversification culturelle, la résistance des cultures locales peuvent vider de leur substance les projets de firmes mondiales. Le critère de l'efficacité économique, qui est quand même le but final des entreprises, ne converge pas nécessairement vers une homogénéisation des procédures. Au contraire, les fonctionnements décentralisés des organisations paraissent plus aptes à impliquer et mobiliser les salariés qui ne font pas partie de l'encadrement de direction. Crise de la forme entreprise. Mais d'autres symptômes de difficultés récurrentes et structurelles apparaissent depuis les années 90. Tout d'abord, une crise de la forme entreprise elle-même. Cette crise revêt deux formes. Premièrement, les limites du périmètre des entreprises sont soumises à une instabilité qui a eu raison des lourds outils de gestion RH, c'est-à-dire ressources humaines. Lorsque les effectifs de l'entreprise s'accroissent de façon vertigineuse, comme dans le cas de success story des start-up, ou bien fluctuent du simple au double au gré des OPA, des fusions, des démembrements. La planification de long terme des effectifs, par le biais de compromis reposant sur les marchés internes, perd une grande partie de son intérêt. Le retour à une logique court-termiste, qui est celle des marchés financiers, reconstruit des éléments d'appréciation des fondamentaux de l'entreprise sur d'autres logiques. Celle de la formation d'une bonne opinion des actionnaires sur les paramètres de gestion, opinion commune qui doit être validée par le verdict des marchés boursiers. Mais la crise de la forme juridique de l'entreprise vient également d'une dilatation de ses limites productives, dans l'exercice même de ses missions, créer et réaliser de la valeur monétisée. L'entreprise se débat avec ses contraintes comptables, nous y reviendrons, mais aussi techniques. Depuis Schumpeter, il était admis que le cœur de l'innovation se situe dans l'entreprise, définie par ses murs, son enceinte régie par un droit particulier, distinct de celui de l'espace public. Pourtant, de très grandes firmes, dotées de départements de recherche et développement très consistants, tels IBM, n'hésitent plus aujourd'hui à expliquer que l'innovation, et pas simplement l'invention, apparaît dans le tissu de leurs sous-traitants, et plus généralement dans les laboratoires des universités, dans le territoire en général de la ville. La veille technologique, comparée à la méthode du benchmarking, n'est plus seulement la surveillance de la concurrence, donc d'autres entreprises, mais le repérage dans la société des facteurs d'innovation et leur appropriation par l'entreprise au moindre coût de transaction. C'est ce que j'appelle la fonction prédatrice des externalités positives des firmes. L'entrepreneur devient un politique dans la mesure où c'est sa connaissance du territoire productif dans toute son étendue, de toutes ses ressources, en dehors de son établissement en particulier, qui constitue un atout décisif dans sa capacité d'innovation en termes de produits et d'organisation. Dans la mesure où l'économie mondialisée connaît un régime d'innovation permanente, avec un raccourci considérable du cycle de vie des produits et des services, cette question n'est nullement subalterne. Troisième et dernier point, le salariat dans la tourmente métamorphose de la question sociale. Mais c'est évidemment sur la forme même du salariat que l'on assiste à une véritable destitution du compromis fordiste, sans que pour autant réapparaissent des éléments de stabilité. Autrement dit, si nous sommes clairement entrés dans une ère post-fordiste, il n'existe guère que de pâles allusions à une société post-salariale, des esquisses si peu convaincantes au demeurant que les solutions néolibérales, sans cesser de tarauder la gauche comme la droite, sont considérées avec une grande méfiance en raison des doses d'instabilité supplémentaires qu'elles introduisent dans un système économique déjà saturé d'incertitudes et de risques par la financiarisation. L'absence de modèle alternatif, bouclant à la fois les exigences de flexibilité et les formes nouvelles de protection et de compromis, ne fait qu'accentuer la crise. Elle rend les entreprises, quoi qu'en aient les déclarations enflammées du MEDEF, notamment à propos des intermittents récemment, elle rend donc les entreprises peu aptes à prévoir un environnement social et sociétal stable pour faire face à un environnement économique largement chaotique. Ce qui ne fait qu'accentuer la crise de régulation salariale. Si les niveaux de salaire diffèrent, si les formes ou l'absence de formes de protection sociale diffèrent, les processus sont étonnamment semblables. Les formes caractéristiques de l'emploi dans les zones du sous-développement réapparaissent au nord dans les cités sauvages, comme les termes mêmes de pauvres et de classes dangereuses, tandis que le sans-papier d'El Egidio, en Andalousie ou en Californie, ne serait pas particulièrement dépaysé, au nombre près, 100 millions, excusez du peu, parmi les sans-papiers de la Delta Pearl River derrière Hong Kong. Le modèle canonique du contrat de travail à durée indéterminée est maintenu globalement, il demeure dominant. Mais il n'apporte plus les éléments de stabilité et de confiance dans la relation avec le travail dépendant et avec les syndicats. À près d'un quart des effectifs de salariés voués aux formes particulières d'emploi, pesant très fortement sur les jeunes, les femmes et prochainement sur les personnes âgées n'ayant pas de retraite suffisante, le pacte salarial est considéré comme rompu par une partie de la population, tandis que le poids du maintien simultané du système de welfare state paraît insupportable à une partie du patronat qui se plaint de ne pas obtenir en échange la flexibilité qu'il demande. Mais il serait imprudent de penser que le déficit de loyauté qui touchera les entreprises après les années de vache grasse du libéralisme ne touche pas d'ores et déjà l'État lui-même et les processus de participation démocratique. Ainsi, dans le débat sur les retraites, la gestion du conflit sur le seul terrain d'un mécanisme retenu pour distribuer par répartition du salaire différé contourne soigneusement la question bien plus centrale suivante. Le problème qui se posera à terme, compte tenu de la porosité du temps de travail et de l'emploi, de sa discontinuité qui existe depuis 25 ans, ce n'est pas surtout la baisse du niveau des retraites pour ceux qui en auront et qui auront les années réclamées, c'est le nombre de ceux qui n'auront droit à rien du tout, bien qu'ils aient cotisé de façon sporadique. On a souvent défini l'État néolibéral comme ayant abandonné les missions de correction de la répartition des revenus par une politique active et généraliste de l'État-providence, de Beveridge, au profit d'actions ciblées sur les plus pauvres. Mais je crois que ça n'est malheureusement même pas vrai. La réalité est pire. Comment interpréter, et j'aborde ma deuxième partie, désormais, le passage, tous ces constats. Notre thèse est simple, elle s'articule de la façon suivante. Les transformations que connaissent les entreprises dans la mondialisation sont d'ores et déjà marquées par une nouvelle grande transformation dont nous rappellerons rapidement quelques caractéristiques. La financiarisation de l'économie et le néolibéralisme ne constituent que la forme du processus. Sa substance, elle, traduit un passage à un capitalisme d'un troisième type après le capitalisme mercantiliste et le capitalisme issu de la révolution industrielle. Deuxièmement, ces transformations génèrent depuis 20 ans de telles tensions sur la valeur, sur la conception de l'économie, de l'activité économique, sur l'exécution des droits de propriété, sur la comptabilité aujourd'hui des entreprises elles-mêmes, sur la forme du salaire, que c'est seulement à un niveau global qu'elles parviennent à s'imposer. La mondialisation, loin d'être un processus piloté de façon univoque par le capitalisme, soumet les entreprises et les États à deux attracteurs opposés, le marché, le réseau. La financiarisation de l'économie, tout en s'exerçant largement au bénéfice des marchés et engageant les différents types d'entreprises dans un corridor instable, libère aussi des forces, des valeurs, des éléments d'organisation qui dessinent à la fois ce qu'André Gorz appelle la dissidence numérique dans son dernier livre, mais également des formes de coopération collective susceptibles de former le socle d'une société, non de l'information, mais de la connaissance, et de créer ainsi les bases d'un compromis nouveau, seul à même de rendre viable ce fameux troisième capitalisme cognitif. Quelles sont les caractéristiques de la mutation en cours depuis une trentaine d'années qui nous permettent de parler d'un capitalisme cognitif bel et bien en train de s'installer ? D'abord, la virtualisation de l'économie, c'est-à-dire le rôle croissant de l'immatériel et des services liés à la production de cet immatériel. Ensuite, le rôle désormais fondamental de la saisie de l'information, de son traitement, de son stockage sous forme numérisée dans la production de connaissances et dans la production tout court à partir de petits ordinateurs décentralisés, de plus en plus puissants, reliés entre eux par l'Internet. Le rôle décisif dans la croissance du processus de captation de l'innovation, des processus cognitifs interactifs de coopération sociale, des savoirs tacites, aussi bien par l'entreprise que par le marché et la puissance publique. Lorsque l'enjeu économique majeur devient la production de connaissances et de l'innovation, et pas simplement celle d'une information, Le modèle smithien de division du travail qui s'était imposé avec le modèle de la manufacture d'épingles et qui avait été perfectionné par le taylorisme se retrouve invalidé dans ses trois dimensions majeures, celles que l'on enseigne aux étudiants en économie. Celle d'abord de la spécialisation de l'activité, la réduction du travail complexe au travail simple, la division de l'exécution manuelle avec la conception intellectuelle, conçue pour diminuer le temps d'apprentissage. Celle de la taille du marché perd sa pertinence dans un univers de production de petites séries, une économie de variété, pour citer Boyer, dans un contexte de forte incertitude de la demande. L'innovation, s'agissant de la coordination de processus complexes, est freinée par la division du travail et non plus stimulée. Celle enfin de gains de productivité qui ne résulte plus d'économies d'échelle pour pallier, la loi des rendements marginaux décroissants. On assiste alors à un bouleversement des séquences productives, donc de la division du travail et de ses composantes, en particulier au renversement des séquences production-commercialisation, notamment dans le nisme appliqué à la production automobile, apprentissage-production, au caractère productif de la consommation comme produisant de l'information et de la régulation en temps réel de la production, enfin à la réversibilité des outputs réinjectés comme inputs. On peut dire également que le modèle dominant en économie des input-outputs se trouve sérieusement questionné, en même temps d'ailleurs qu'il est questionné par les modèles écologiques. La nature uniforme des talons de marchandises est remise en question en raison de la pluralité irréductible, justement des composants ou des intrants, par la dissolution des lignes de partage traditionnelles entre capital et travail homogène ou qualifié, non qualifié. L'école évolutionniste, par exemple, souligne la distinction entre le hardware, le software et le wetware, c'est-à-dire entre le logiciel, les machines et l'activité cérébrale. La montée irrésistible dans les modèles de coopération sociale et productive d'une quatrième composante, le netware ou réseau, est un trait particulièrement frappant. La société de réseau est rendue possible par l'informatique, la numérisation, la programmation, la diffusion de l'ordinateur personnel et par la constitution de l'Internet. Mais cette montée de la coopération entre les cerveaux comporte un déclin du paradigme énergétique et anthropique de la force de travail, des marchandises matérielles dans la production de richesses. On y trouve désormais un rôle dominant des économies d'apprentissage dans les phénomènes de différenciation des marchés et de concurrence intercapitalistique. Le travail vivant récupère un rôle central. Il s'agit de travail vivant non consommé, non réduit à du travail mort dans le machinisme, et les savoirs implicites prennent une importance dans la mesure précisément où ils sont irréductibles à du machinisme, à du capital humain standardisé et codifié. Dans les sociétés dont la forme se rapproche du capitalisme cognitif, le travail vivant et la consommation vivante occupent tout d'eau une place centrale. Si Zrafa avait parlé de production de marchandises au moyen de marchandises, on peut dire aujourd'hui que l'on produit du vivant au moyen du vivant. Le déclin des concepts de performance individuelle de l'entreprise, de la performance factorielle, au profit d'une globalisation de la performance étendue au territoire productif, soulève également des problèmes extrêmement intéressants quand on examine la littérature gestionnaire. La spécificité du bien information quant à son usage, son amortissement, son enrichissement, son appropriabilité exclusive, son horizontalisation nécessaire, la firme apprenante apparaît comme une dimension croissante de la firme. Ce qui est important, c'est que la connaissance émerge comme un bien public et n'est pas séparable de la révolution des NTIC, ce qui ouvre un problème de mise en œuvre ou enforcement des droits de propriété classiques, y compris ceux de la propriété intellectuelle, que soulève la question des brevets et des droits d'auteur. Si nous voulons caractériser le problème des entreprises aujourd'hui qui travaillent avec le capital humain, il peut tenir en un mot. Le capital humain, s'il est vivant, c'est-à-dire s'il est incarné dans les salariés, comment peut-il être comptabilisé ? Il va être comptabilisé comme un coût et non comme une ressource. Il ne sera pas amortissable. Et la comptabilité actuelle des entreprises ne reconnaît comme capital, au fond, humain, que le capital humain codifié dans des brevets, d'où la pression actuellement des grandes multinationales à conclure très vite des accords de reconnaissance des brevets, à brevetiser le vivant, et d'autre part, ne peut être comptabilisé que dans la mesure où la firme possède à l'intérieur d'elle-même les ressources de l'innovation. Les externalités, et là s'ouvre la question des externalités qui me paraît centrale et qui, au fond, boucle la question du capitalisme cognitif. Les externalités cessent d'être marginales et liées à de simples phénomènes partiels d'indivisibilité. Elles se généralisent. L'exaspération de la norme marchande se produit alors dans une situation paradoxale. Les prix de transfert sont incommensurables avec les prix de marché et les coûts de transaction deviennent infinis. Nous pouvons donc essayer maintenant de caractériser le capitalisme cognitif ou troisième capitalisme au-delà du capitalisme marchand et du capitalisme industriel et financier. Pas plus que le capitalisme industriel n'avait rompu avec la substance du capitalisme marchand. Esclavagiste, le capitalisme cognitif qui s'annonce et qui produit et domestique le vivant à une échelle jamais vue n'évacue le mode de la production industrielle matérielle. Il le réagence, le réorganise, en modifie les centres nerveux. Il obéit à cette nouvelle logique et ne se contente pas de tordre la logique de l'ancienne économie. La financiarisation est donc l'expression de ce remodelage, du reformatage de la production matérielle. Par capitalisme cognitif, nous désignerons donc un régime d'accumulation dans lequel l'objet de l'accumulation est principalement constitué par la connaissance qui devient la ressource principale de la valeur et qui devient le lieu principal du procès de valorisation. Ce régime se manifeste empiriquement par la place importante de la recherche, du progrès technique, de l'éducation, ce qu'on appelle la qualité de la population, de la circulation de l'information, des systèmes de communication, de l'innovation, de l'apprentissage organisationnel et du management stratégique des organisations. Du côté de la demande, la consommation est aussi orientée vers la technique, et notamment vers les techniques de l'esprit, c'est-à-dire celles qui mettent en jeu les facultés mentales via l'interaction avec les nouveaux objets techniques, audiovisuels, ordinateurs, Internet, consoles de jeux, etc. Une société dans laquelle se manifestent les orientations du capitalisme cognitif tend à accentuer et exercer directement un contrôle sur les lieux et les acteurs détenant des connaissances ou un potentiel de créativité technique, que ce soit dans le domaine de la production, du commerce ou de l'organisation. Il ne s'agit plus, comme dans la société industrielle, d'accroître l'emprise sur les lieux de production, de développer l'organisation de la production et de maîtriser une capacité de production de plus en plus étendue afin de bénéficier d'économies d'échelle ou d'effets d'expérience. Il s'agit principalement de gérer des connaissances techniques, d'assurer le développement des processus d'apprentissage, de créer des connaissances nouvelles et de se ménager l'accès à des connaissances disponibles à l'extérieur. Il s'agit aussi de mettre en place des systèmes étendus de communication et de développer la gestion de projet. Un système de ce type vise à placer au centre de la sphère de production et à intégrer pleinement à la sphère économique marchande et non marchande des ressources qui leur étaient extérieures. Ceci requiert souvent l'établissement d'un certain nombre de règles de nature institutionnelle. Le salarié libre, qui avait été la forme canonique de la soumission du travail dépendant, connaît alors une crise constitutionnelle. Son ancien régime n'est plus compatible avec les nouvelles formes d'accumulation. La crise structurelle de l'emploi est une crise de l'emploi salarié sous sa forme fordiste et keynésienne. Elle ne marque pas la fin du travail ni celle du travail dépendant, car les formes de soumission nouvelles apparaissent avec la désalarisation formelle d'employés qui sont directement sous les ordres du marché, même s'ils sont autonomes et indépendants, ou bien avec des formes d'emploi dépendants qui ne bénéficient plus des garanties du volet social du salariat classique. Le développement du capitalisme cognitif ne peut en effet se réaliser sans un certain nombre d'agencements réglant des activités, des relations et des droits de propriété dont l'encadrement institutionnel se révèle insuffisant. Les deux lignes directrices de l'installation d'un régime stable du capitalisme cognitif consistent donc, premièrement, à faire apparaître les externalités positives dans une globalisation qui sert aussi à solder les externalités négatives dans un souci d'éliminer les sources de déséquilibre durable sur la croissance de la production de connaissances. Bref, de dresser une cartographie de ce qui échappe à la norme marchande dans le territoire, notamment dans les territoires productifs. Deuxièmement, à capter les externalités positives et à les valider dans la création d'un profit privé. En conclusion, par conséquent, retour sur la mondialisation et sur l'entreprise face au territoire. Le passage macroéconomique de l'économie monde au troisième capitalisme s'accompagne donc d'une transformation rapide et profonde des outils de compréhension de l'entreprise et d'évaluation de la performance. Cette transformation se décline en trois innovations majeures qu'on repère dans la théorie économique. Notamment, les coûts de transaction, avec Coase et Williamson, l'entreprise n'est pas un marché, sa dimension organisationnelle, donc sociologique, est une des clés essentielles de la compréhension de ses structures comme des torsions auxquelles elle est soumise. La rationalité procédurale ou limitée, qui devient de plus en plus importante avec la croissance des biens immatériels et la mise en œuvre, l'implication du travail du cerveau. C. Les effets externes liés aux interactions croissantes, aux indivisibilités et à la nature de biens publics des connaissances et des informations modifient profondément les rapports de l'entreprise avec son environnement et les conditions de production de l'innovation. C'est donc le problème de l'entreprise, de la limite de l'entreprise et des territoires productifs auxquels je faisais allusion au début de cette conférence. Cette transformation touche aussi les outils d'évaluation de la performance dans l'entreprise qui se globalisent, d'où le rôle croissant de la notion de compétitivité hors coût. L'efficience est ainsi redéfinie et de nouveaux outils de gestion apparaissent, tels la méthode des surplus, la valeur ajoutée directe, la comptabilité par activité, la gestion par projet. Fort de ce parcours nécessairement sommaire, retournons maintenant à la question de la gouvernance globale des entreprises. Nous avons résumé cela dans le dispositif évoqué par le schéma 1. Alors j'essaye de que ça apparaisse. Oui, voilà. Bien. Alors, si vous le voyez, j'ai noté ici en orange les éléments qui, du côté des entreprises, firmes transnationales, du côté de la main-d'œuvre, migration, sous ces triples éléments, migration des élites du savoir, migration de la main-d'œuvre banale et multinationalisation des firmes. Les apports, si vous voulez, de l'entreprise et de la main-d'œuvre à la mondialisation. J'ai noté en noir les retours de la mondialisation sur les entreprises, la financiarisation et la nouvelle division internationale du travail, avec son cortège de délocalisation et de transformation profonde de l'articulation même des entreprises qui ont tendance à devenir au centre des hollow box, comme dit Paul Drucker, c'est-à-dire simplement des boîtes vides qui ne comprennent plus que les nœuds de contrat, le service juridique, le service de la communication, les services financiers, et qui sous-traitent entièrement la production matérielle à des zones contrôlées par un pouvoir politique, comme par exemple le Parti communiste chinois. La mondialisation a, avant la mondialisation, on peut dire que la GRH, le circuit avant la mondialisation en bleu pour l'entreprise, et en Parme pour l'État, c'est-à-dire les flèches Parme, plaçait la GRH en position de médiation simple entre l'exigence économique de l'entreprise, faire des profits, et les caractéristiques de la main-d'œuvre organisée en système d'emploi de par l'intervention même de l'État, et donc évidemment du système de welfare. De même, les politiques d'aménagement du territoire, ici, et d'éducation et de formation de l'État se définissaient de façon bilatérale. Avec la mondialisation, les circuits s'interpénètrent. Pourquoi ? Parce que la mondialisation a évidemment un effet noté par les flèches vertes directement sur les territoires, directement sur la population et évidemment sur les États à travers les normes financiarisation et de désabritement des économies des espaces nationaux. Avec la mondialisation, donc, les deux circuits s'interpénètrent. La gouvernance, représentée en traits rouges épais et discontinus, tend à réunir ces séquences et à intégrer les exigences de la mondialisation non plus seulement sur les entreprises, le territoire et une partie de la population non directement employée dans les entreprises présente sur le marché demeurant abrité, c'est le côté population, si vous voulez, ou ce qui est à la porte de la main-d'œuvre mais qui n'est pas de la main-d'œuvre, alors que là, on a directement un impact de la mondialisation sur la population. Pas simplement, comme le pensent certains, par des tentatives de privatiser l'éducation, etc., mais par la production d'images globales, de styles de vie, d'énoncés linguistiques, musicaux, de formes culturelles, de cultures à vocation mondiale, mais aussi la production d'une opinion commune sur le risque, sur les actifs financiers, sur la guerre. Éléments qui deviennent absolument fondamentaux dans ce capitalisme qui, du point de vue de la financiarisation, se présente comme une démocratisation de la bourse. À cette globalisation et à la plus forte intégration du grand circuit de la gouvernance correspond une mutation de la GRH qui doit intégrer directement maintenant les traits discontinus rouges ici, qui doit intégrer directement les territoires et la population en général. Autrement dit, la GRH de l'entreprise devient directement gestionnaire de la vie du salarié et non pas simplement de sa dimension partielle limitée de population active au travail. C'est sur l'activité globale du salarié, sur sa capacité de s'impliquer que reposent les enjeux des nouvelles mobilisations de la GRH. Cela pour le meilleur et pour le pire naturellement, en particulier avec le dépassement au moment où on parle tant de la réduction légale du temps de travail, avec le dépassement systématique de l'horaire de travail en dehors du lieu précisément de travail circonscrit à l'usine. Tout cela avec une instabilité forte, des risques de retournement qui ne sont pas maîtrisés ni maîtrisables exclusivement dans la firme. Cette totalisation ou globalisation explique l'importance des services de la communication et des services juridiques. Fixer, et j'en termine par là, fixer la main-d'œuvre de façon durable a toujours constitué pour le capitalisme d'entreprise, que l'entreprise s'appelle une plantation esclavagiste à Haïti, les usines de Liverpool ou Microsoft à Redmond, le problème essentiel. La prolétarisation a été le moyen de maintenir le travail dépendant en usine, mais sans les lois sur les pauvres de l'ancien régime, jamais elle n'y serait parvenue. Le régime fordiste de capitalisme régulé a supposé des politiques macroéconomiques de stabilisation de la demande effective et l'État-providence. Aujourd'hui, sans transformation radicale du salariat, probablement par la constitution d'un revenu d'existence ou de citoyenneté qui protège les intermittents de la connaissance et de la production du vivant au moyen du vivant, et un New Deal refondant l'État à l'échelle fédérale européenne, nous traînerons un état de stop-and-go économique. Se décider pour la nouvelle économie signifie de part et d'autre de l'Atlantique un saut décisif dans la liberté du salarié et non pas simplement dans celle des élites, des riches ou de la jet-set du management, mais de la population comme un tout. Car qui ne gouverne pas la population dans son ensemble ne mérite pas le titre de gouvernement. Sinon, nous aurons très probablement la vieille économie, la stagnation, en attendant pire, c'est-à-dire l'économie de guerre. Je vous remercie.
André Gors, dont vous avez parlé tout à l'heure.
Oui.
Ici.
Attendez, ah oui, oui, pardon.
Il prône l'abolition du salariat et il demande d'oser l'exode. Il est aussi pour le revenu inconditionnel pour tout le monde, suffisant pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez exactement?
Ben, écoutez, le dernier livre de Gors auquel je faisais allusion, qui n'est peut-être pas celui auquel vous faites allusion, c'est-à-dire celui de l'immatériel ou la dissidence numérique, précisément examine l'importance, essaye de justifier le passage à un revenu inconditionnel d'existence comme une base, si vous voulez, de ce qu'il appelle une sortie du salariat. Il me semble que, effectivement, c'est un point de vue qui a été même défendu par René Passet récemment à propos du problème des retraites. Et je dois dire que je suis surpris que sur la question des retraites, on n'ait pas évoqué la possibilité d'un revenu d'existence déconnecté du nombre, du temps de travail qu'aurait effectué l'ensemble de la population active, étant donné que le problème gravissime que nous avons, comme je l'ai évoqué, c'est non seulement le fait que nous avons une population qui produit des richesses, qui produit par exemple ne serait-ce que l'éducation des enfants, ce qu'on appelle, les démographes appellent ça l'élevage des enfants, pardonnez-moi, qui est un travail extrêmement fondamental, sans lequel le petit animal humain a énormément de mal à socialiser et finit très souvent en HP. Donc il y a la reconnaissance de ce travail-là, qui n'est pas un travail salarié, et c'est toute la problématique du tiers secteur qu'avait essayé d'aborder précédent gouvernement en essayant de voir comment il pouvait conférer à ceux qui travaillent dans le bénévolat ou dans le tiers secteur un statut qui leur permette d'ouvrir des droits. Mais d'autre part, à l'intérieur de ceux qui travaillent dans le salariat et la galère de l'intermittence, les formes actuelles de protection, dans le cas du spectacle, sont, vous l'avez vu, en question et sont de toute façon largement insuffisantes. Mais dans le cas de nombre de ce que mon ami Franco Berardi appelle le cognitariat, c'est-à-dire un véritable prolétariat de la connaissance, qui n'a pour vivre que l'exercice de son activité mentale, avec un salariat des plus intermittents, eh bien là, la situation est catastrophique. Et il est clair que tant que l'on reste à la position soutenue par mes collègues Jean Pisani-Ferry, Jean-Claude Fitoussi, que finalement la retraite est du salaire différé, si c'est du salaire différé, seuls les salariés auront droit à des niveaux d'existence possibles. Et je crains que malheureusement, on ait toute une partie du salariat qui ne se révèle plus éligible dans les 30 prochaines années au titre de cette retraite à propos duquel on a passablement débattu en France récemment. Donc, encore une fois, la question qu'André Gors évoque me paraît tout à fait fondamentale et il a changé, comme vous le savez, de position. C'est-à-dire que depuis ces deux derniers livres, il s'est rallié à l'idée d'un revenu inconditionnel d'existence substantiel comme une condition de, à la fois de l'équité, mais je dirais pour ma part, j'ajouterais de compatibilité, de stabilité d'une économie de la connaissance, hein, d'une économie de production de les connaissances, que lui appelle la production des savoirs, parce qu'il range dans l'économie de connaissances ce que moi j'appelle purement l'économie de l'information. Bon, c'est des questions de terminologie, mais en tout cas, je pense que vous avez raison, c'est une des questions. Est-ce que le salariat va se trouver, va changer par l'introduction, un changement dans le welfare, un changement dans la règle du jeu, la donne sociale, exactement comme le travail dépendant, esclavagiste, a changé du tout au tout quand on a introduit la liberté pour le salarié de quitter son employeur.
En fait, je voulais juste soulever la remarque sur le fait que la moyenne de durée de travail d'un employé au sein d'une seule entreprise ne cesse de diminuer. Oui. Je voulais poser la question, est-ce que c'est dû à un climat d'inconfiance, dû au fait que la spécialisation en elle-même, c'est un désarmement intellectuel du cadre, de l'employé? Est-ce que c'est dû à une concurrence de plus en plus agressive entre entreprises? Et est-ce que ce phénomène influe sur la productivité d'une entreprise?
Oui, écoutez, je pense que j'ai essayé d'y consacrer un peu de temps, là, en vous montrant que les conditions même de rupture des marchés internes provenaient indubitablement de l'entreprise, mais elles proviennent aussi de réactions, de comportements des salariés qui... vous savez, la confiance est un phénomène mimétique, exactement comme la monnaie. Et depuis qu'on est dans une économie financiarisée, le mimétisme des comportements joue un très grand rôle. Si vous avez confiance, j'ai confiance. Si je vous donne l'impression d'avoir confiance en vous, vous avez confiance. C'est comme si vous aviez confiance. Mais si je vous donne l'impression, même si ça n'est pas le cas, que je n'ai pas confiance en vous, alors vous n'avez plus confiance en moi et la méfiance s'installe. Et c'est un processus cumulatif qui va extrêmement vite. Et nombre de RH vous diront dans les entreprises que ce que l'on a construit, que l'on a mis des années à construire, c'est-à-dire des relations de confiance avec les syndicats, avec les salariés, avec un personnel de RH qui était pris au sérieux et qui était capable de défendre un territoire face aux empiétements des directions financières, eh bien, ça se détruit à une vitesse foudroyante. C'est ce que les économistes appellent l'effet de signal. Si pour économiser quelques 2 points sur la masse salariale, vous licenciez au lieu de conserver des actifs, vous vous en débarrassez immédiatement, vous économisez cette masse salariale, mais si vous avez un marché interne, si vous avez des gens qui avaient l'habitude de considérer qu'ils n'étaient pas, ils étaient un peu dans un emploi semi-protégé, ce signal peut fonctionner pour eux comme une menace, et à ce moment-là, les dégâts que vous allez avoir vont apparaître, peut-être pas directement dans les prix, immédiatement, mais ils vont apparaître dans la qualité du produit. C'est exactement le problème que soulève Hirschman dans le livre auquel je me référais.
Simplement, par rapport au mot, au concept que vous avez évoqué, notamment le troisième capitalisme, vous avez fait allusion aussi aux ressources humaines. La question que je pose, sans vouloir faire de corrélation trop subjective avec ce qu'on peut évoquer la science-fiction finalement, c'est qu'aujourd'hui, la société évolue et pour l'instant, on stigmatise un peu la question de l'économie. Mais finalement, c'est le sujet de la conférence, c'est un phénomène global. Vous faisiez allusion à la ressource humaine comme on peut faire allusion aux sciences humaines qui sont en plein essor. Donc aujourd'hui, la question que je pose, c'est finalement, nous avons, nous, dans la salle, comme toute la population mondiale, une réaction quelque part de panique face au monde qui se fluidifie, tandis que jusqu'à présent, nous avions des repères solides. Les États même sont perdus, sont des repères d'autrefois qui le sont moins aujourd'hui. Et finalement, c'est une forme de décentralisation intellectuelle, quelque part. Nous avons tous à nous constituer chacun des repères, à les échanger pour mieux approcher la question. Donc, la question que je pose, c'est finalement, la psychologie boursière a trouvé ses limites. Aujourd'hui, c'est plutôt la psychologie humaine face à l'économie, mais face à notre société mondiale dans laquelle nous vivons, qui doit évoluer. Donc, ça suscite des peurs. Moi, je ne veux pas être défaitiste. Je pense qu'en voyant la population de la salle aujourd'hui, qui est très variable, qui est représentative de notre société, je pense qu'on est capable de relever le défi. Et surtout face à votre témoignage, des instruments doivent être créés, mais nous y parviendrons certainement. Qu'en pensez-vous ?
Merci, c'est une question, c'est un statement plus qu'une question. Un petit mot sur une chose simplement, le capitalisme cognitif. J'ai dit capitalisme parce que je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une économie de marché où un certain nombre de gens veulent faire des profits, donc c'est un capitalisme, mais ce n'est pas une société qui repose sur des connaissances. Knowledge-based economy, ce n'est pas une économie qui repose simplement sur la connaissance, c'est une société... Et c'est un régime capitaliste où ceux qui détiennent une partie des fonds, des investissements, entendent bien ne pas le faire à fond perdu. Deuxième chose, il y a une tension très forte entre ce que j'appellerais le capitalisme cognitif et ce que j'ai appelé la tension réseau versus marché. C'est peut-être ça qui vous amenait à parler de la science-fiction, génération Matrix, etc. C'est que... Le réseau, incontestablement, expérimente des formes de collaboration, de connaissance, d'activité qui, j'allais dire pour la première fois, laisse Adam Smith. C'est-à-dire qui nous délivre d'Adam Smith, comme nous entrons dans l'ère de l'information, dans un univers de l'abondance et pas de la rareté. Alors, c'est paradoxal parce que simultanément, ce moment où nous rentrons dans l'ère de l'abondance numérique est aussi un moment où nous prenons conscience du complexe et que la rareté traditionnelle économique, classique, se voit bornée, hein, et bordée, comme on borde un gamin, par la rationalité écologique qui, elle, aperçoit des raretés non renouvelables, des ressources non renouvelables, des modèles complexes d'équilibre qui considèrent simplement, qui sont d'ailleurs similaires à celles de la complexité du cerveau humain, et qui considèrent que finalement, la science économique, malgré toute son arrogance et ses prétentions, est d'une simplicité et d'un simplisme presque périlleux par rapport à la complexité, par exemple, la conservation de la planète dans un état vivable et soutenable. Donc je pense que, si vous voulez, on a à la fois l'abondance du numérique, le monde illimité de la connaissance, et un monde dans lequel les biens matériels ne seraient plus rationnés par le travail à la sueur de son front, selon la sentence biblique. Et de l'autre côté, nous avons une prise de conscience planétaire. Et je pense que ces deux choses font partie de nos... C'est nos deux hémisphères cérébraux.
Dans la Vulgate marxiste, la transformation de la société était prise en charge par la classe ouvrière, qui était à l'époque essentiellement la classe ouvrière industrielle. Les métallos, les mineurs, les dockers, les ouvriers du bâtiment, etc. Bon, il ne s'agit pas de juger les résultats de cette vision. Ce qui est certain quand même, c'est que cette classe ouvrière avait trouvé des formes d'organisation, partis, syndicats, solides et efficaces. Dans le nouveau capitalisme que vous nous avez décrit, où voyez-vous la possibilité d'une organisation politique des éléments exploités aussi disparates que sont les prolétaires du tiers-monde en Chine ou dans nos banlieues, ou que sont les intellectuels prolétaires, professeurs ou intermittents du spectacle?
Oui, vaste question, mais je pense qu'on ne peut pas simplement opposer, si vous voulez, le déclin des organisations syndicales, qui est un phénomène récurrent, ne veut pas dire leur disparition, c'est un peu comme le travail, et j'allais dire le syndicalisme à la Valeza ou le syndicalisme à la Lula a, j'espère, et je le souhaite profondément, de beaux jours devant lui en Chine, encore qu'il rencontre, comme vous le savez, une répression féroce, puisque des syndicalistes sont condamnés là-bas à 15 ou 20 ans de travaux forcés pour atteinte à la sécurité de l'État. Donc je crois que, notamment dans le Sud, l'organisation syndicale des sections, au fond, ouvrières, en col bleu du monde, sont loin d'être épuisées. Deuxièmement, la dispersion, si vous voulez, des travailleurs dans le capitalisme cognitif, ou des gens qui mènent une activité, je pense en particulier aux freelance, aux intermittents, aux précaires, etc. Elle est à la fois réelle et en même temps elle est réversible de façon extrêmement remarquable. On a repéré par exemple aux États-Unis que les représentants de produits pharmaceutiques qui joue un rôle assez fondamental pour les grandes multinationales des médicaments, ont pu monter un syndicat de plus de 160 000 membres en quelques mois, tout simplement en recourant aux moyens de l'Internet. Je ne sais pas si vous avez vu la façon dont les coordinations... En 1995, on parlait des coordinations comme forme encore matérielle. Aujourd'hui, les coordinations par liste Internet vont à la vitesse de l'éclair. Je vous citerai un exemple pour être plus concret encore. Lorsque la Monsanto a mis au point son projet qu'on peut qualifier de diabolique, appelé Terminator, ce projet qui prévoyait donc d'abolir la propriété même du vivant de se reproduire parce qu'elle empêchait une marchandisation, parce que si le soleil, lui, pour tout le monde, pourquoi voulez-vous qu'on paye des chandelles? Eh bien, quand la Monsanto a fait fait ce projet Terminator de manipulation génétique des semences qui programmait la mort, c'est-à-dire qui utilisait les gènes pour programmer la mort des semences après une seule utilisation, le résultat ne s'est pas fait attendre. À travers l'intranet puis l'internet, on a eu en moins d'une semaine une demi-douzaine de prix Nobel, 15 000 personnes qui se sont manifestées, et la Monsanto a dû retirer, je ne sais pas si c'est définitif, mais en tout cas, ça fait plusieurs années qu'elle n'ose plus en parler. Le projet, très vite, récemment, les contestations, les formes de contestation dans la Silicon Valley, ce n'est pas parce qu'il y a la crise de la net économique, qu'elle n'existe pas. Vous avez un exemple très frappant, c'est le projet Palladium de Microsoft, qui vise à installer une puce sur les ordinateurs et donc à vérifier que tout ce que vous utilisez, tout ce que vous faites sur vos ordinateurs, c'est du Orwell pur. Eh bien, ce projet Palladium a tout simplement échoué, a été retiré par la firme de Redmond parce que ses propres ingénieurs n'y croyaient pas, le manifestaient et le manifestaient en intra et internet. Donc je pense que si vous voulez, il y a beaucoup de possibilités contrairement à ce qu'on croit et que l'émiettement est une question davantage de contenu des politiques que de réalité, j'allais dire, physique.
Vous avez parlé en introduction de Karl Polanyi.
Oui.
Et de ce qu'il a appelé la grande transformation. Selon lui, et tel que j'ai compris son livre, cette grande transformation consistait à utiliser l'idée du marché autorégulateur pour faire de la nature, de l'homme et de son travail, de la monnaie, des marchandises.
Non, alors, c'est le contraire. Je vous interromps tout de suite, c'est le contraire.
Oui. Mais, c'est le contraire. Juste, oui, mais je finis juste ma question.
Oui, allez-y.
Vous nous avez parlé aujourd'hui d'une transformation contemporaine équivalente. Alors, j'ai pas bien compris dans votre exposé s'il s'agissait d'une transformation réellement équivalente dans son ampleur ou si on était simplement dans un changement d'échelle plus que de nature.
Bon, je pense que je suis obligé de vous répondre que si vous avez interprété Polanyi comme ça, il est clair que ça ne marche pas. Parce que ce que Polanyi montre dans La Grande Transformation, c'est le caractère fictif des mécanismes autorégulateurs du marché. Que ce soit le marché de la terre, le marché du capital ou le marché du travail. Il essaye d'expliquer qu'en fait, il n'y a pas d'autorégulation. Que la régulation, elle est exogène. Ça veut dire qu'on ne peut pas confier au processus économique une sorte de régulation interne, comme le postule le mécanisme de la main invisible d'Adam Smith, mais qu'au contraire, il faut que se constituent des forces politiques, sociales, religieuses, culturelles, qui encastrent, embedded est utilisé en anglais, c'est-à-dire borne, l'économique, pour éviter justement son débordement et son aspect chaotique. Alors, la grande transformation pour Polanyi, c'est tout simplement lorsque se met en place cet ordre libéral après la défaite napoléonienne et l'hégémonie anglaise de 1815 à 1914. Cette chose est liée également à un régime de monétaire international spécifique, qui est l'étalon or, et pas l'étalon de change or. Polanyi pense que l'ensemble des processus sociaux, politiques, peuvent être interprétés à travers ce cadre-là. Alors, et il montre que c'est une transformation d'ampleur par rapport à ce qui précède, que lui n'appelle pas du tout le capitalisme mercantile comme moi. Mais en fait, ce que je reprends de Polanyi, c'est l'idée qu'il y a une transformation, que cette transformation est de grande ampleur. Je l'appelle nouvelle parce que ce qu'on appelait la valeur, ce qu'on appelait le marché, reposait sur des bases d'une économie essentiellement matérielle. Elle reposait aussi sur un travail vivant qui était essentiellement physique, musculaire, une dépense d'énergie et un travail simple, de telle sorte que, disons, la division du travail garantissait une progression très forte du produit, et que c'est sur cette base que le capitalisme industriel s'était développé. Là, ce que j'essaie de montrer, c'est que les conditions mêmes du marché se sont radicalement transformées. Les biens dont on parle sont des biens connaissances. Ces biens connaissances ne sont plus évaluables sur le concept de rareté, pour une raison très simple. C'est que tout ce que je vous dis en faisant cette conférence, je ne m'en prive pas. Vous le recevez, je ne m'en prive pas. Ça n'est pas un jeu à somme nulle, ça n'est pas un jeu où tous les gains de l'un sont des pertes pour l'autre. Donc, il existe une relation d'échange dans la connaissance qui est profondément rétive à la marchandisation. Et quand bien même il s'agirait d'information, l'information coûte très cher à produire, mais aujourd'hui elle se reproduit tellement facilement que son coût de reproduction marginale étant nul, elle ne vaut rien une fois qu'elle a été fabriquée, si vous voulez. Donc ce sont des problèmes auxquels à faire face aujourd'hui l'économie classique, la vieille économie, les vieux mécanismes de régulation face à ces biens, face à ces objets, face à ces, également à ces sujets, c'est-à-dire au cerveau. Et on ne commande pas les cerveaux, on ne commande pas la connaissance, on ne paye pas la connaissance de la même façon qu'on le fait pour un verre d'eau. C'est ce que Gabriel Tard avait évoqué puisqu'il avait commencé dans son livre sur la psychologie économique son exemple à propos d'un livre, en se demandant quelle est la valeur d'un livre. Et vous vous rendez bien compte que si vous me dites que la valeur d'un livre, c'est le papier, ce qui lui a servi, le temps de travail qui a servi à le fabriquer, vous allez vous heurter à une facilité, vous allez pouvoir me dire combien l'imprimeur a mis pour le faire, mais combien l'auteur a mis pour le faire, on va rentrer dans des discussions byzantines pour savoir quelle est l'heure de travail de l'écrivain moyen. Est-ce que l'heure de travail de Luce Litzer vaut l'heure de travail de Faulkner ? J'ai pas l'impression. Bon. Et on va rentrer dans une discussion encore plus byzantine lorsqu'on va parler de la valeur, si vous me dites que c'est la rareté de ce bien. Est-ce que la valeur de Faulkner, c'est que le livre soit introuvable ? Non, ça c'est un point de vue de collectionneur, mais c'est certainement pas le point de vue qui prévaut, j'allais dire, dans l'organisation de la culture en général, qui devient un secteur absolument déterminant du point de vue économique, puisque si vous regardez la tête que tiraient les forces économiques, entre guillemets, classiques, c'est-à-dire celles qui vendent de la limonade dans les bistrots et les restaurants ou qui vendent des chambres d'hôtel par rapport à la grève du spectacle des intermittents, elle était claire, il y avait une relation. Monsieur Sellière dit que les salariés payent, les salariés du privé payent pour les intermittents, mais il oublie de dire que les externalités positives produites par les intermittents du spectacle, c'est le pain. C'est tout simplement la possibilité de survivre pour quantité de régions françaises qui ont cessé de produire du coq, du charbon, des machines-outils, etc., et qui produisent autre chose, qui produisent de la culture.
Pire encore que le Terminator, dans le livre auquel vous avez fait référence d'André Gors, il parle de quelque chose qui est absolument épouvantable, c'est cet homme artificiel. Est-ce que vous n'en avez pas parlé parce que vous n'en avez pas peur ou parce que vous n'y croyez pas ?
Non, ça, je vous avoue, et je l'ai écrit parce que j'ai fait une critique du texte dans ma revue. D'ailleurs, on va publier un entretien très long d'André Gors. Mais par ailleurs, j'ai fait une critique dans une petite revue qui s'appelle Écorève sur le livre d'André Gors. Et j'avoue que ce chapitre sur l'homme-machine et l'homme-cyborg, la critique de l'homme-cyborg m'a paru totalement en décalage avec les autres chapitres du livre. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai retrouvé l'André Gors sartrien de la réification. Alors, ce qui est en jeu, c'est vrai, et c'est ce que vous avez dans les questions Matrix, etc., et dans le cyborg, l'homme cyborg ou les prothèses auxquelles avaient réfléchi déjà beaucoup Deleuze et Guattari, c'est l'hybride du vivant et du mécanique. C'est quelque chose qui fait vaciller les frontières classiques auxquelles nous avons été habitués sur l'homme animal humain. Et si vous voulez avoir une stimulante discussion là-dessus, il vous suffit de lire le petit texte de Sloterdijk, qui est « Discours sur le parc humain », qui a fait bondir Habermas, mais qui représente, j'allais dire, la reprise de la discussion sur l'humanisme et le post-humanisme. Donc je vous avoue que ce chapitre-là du livre d'André Gors m'a laissé quelque peu... Je l'ai trouvé très en décalage par rapport à ce qu'il dit par ailleurs du savoir. Car si nous nous intéressons au savoir, si nous nous intéressons à l'homme de la connaissance, l'homme de la connaissance est fondamentalement un cerveau qui fonctionne grâce à un corps, mais ce corps peut être parfois appuyé par des prothèses. Alors c'est fascinant parce que, si vous voulez, par rapport à la naturalité classique de l'humanisme, de la Renaissance, etc., c'est une chose qui est tout à fait étonnante, comme l'est d'ailleurs la lisière entre le droit sur la vie et la mort, la production du vivant, la modification génétique, enfin des questions d'éthique extrêmement compliquées dans lesquelles je ne peux pas rentrer là ce soir, mais qui me paraissent effectivement des points fondamentaux qui ont certainement été évoqués dans des cycles de l'Université de tous les savoirs, je crois le savoir d'ailleurs.
Voilà, merci beaucoup Yann Mulet-Boutan.